La tribu, c'est toi qui prends le micro.
Toujours en direct du collège Anita Conti pour Parole de Conti. Et cette fois, nous accueillons Anna, Agathe, Elena et Margot et leur invité. Bonjour.
Bonjour. Pouvez-vous présenter vous et votre association ?
Oui, donc je suis une grande amoureuse des chats. J'ai commencé en étant bénévole dans une autre association qui a déménagé pour s'agrandir et faire un beau refuge du côté de Ferrel. Donc nous, du coup, avec les locaux qu'il restait, nous avons remonté une autre association indépendante, une toute petite association. Et sinon, un petit point commun avec vous. Donc moi, j'ai aussi fait ma scolarité dans la même cité scolaire que vous. Donc voilà, donc je connais un petit peu le coin. Sinon, notre association, c'est une toute petite association. J'aime à dire taille humaine et féline. Un refuge qui ne comporte en fin de compte que 7 animaux. Donc il y a très peu, parce que c'est vrai qu'aussi, pour que les animaux soient heureux, même si ça dure peu de temps, il ne faut pas qu'ils soient forcément trop nombreux, et aussi pour des problèmes d'hygiène. Donc notre taille n'est pas forcément en relation vraiment avec les besoins, mais par rapport plus à notre capacité d'adoption, qui concerne souvent plutôt des chats adultes. Et les chats adultes, effectivement, sont des animaux qui sont un peu moins adoptés parce que les gens recherchent souvent plutôt des chatons. Hein, c'est vrai que c'est toujours plus mignon en bouille, mais voilà. Et donc, notre but, c'est de trouver un foyer adapté à tous ces petits chats.
Pourquoi travaillez-vous avec des chats et pas d'autres animaux ?
Alors, d'abord, une fascination pour l'animal, et aussi parce qu'on peut avoir parfois plus d'affinité, plus pour un animal qu'un autre. Et puis, il vaut mieux peut-être faire moins d'animaux, bien les connaître, que d'en faire plusieurs, parce qu'il faut... Je trouve que l'une des choses principales aussi, c'est de bien les connaître et pour pouvoir justement bien les placer. Qu'est-ce que je peux dire aussi ? On a eu 2 lapins, par exemple, aussi en adoption. Hein. Ça nous est arrivé, mais c'est vrai que du coup, on n'a pas forcément le matériel et on s'y connaît un peu moins. Et sinon, quand un refuge qui accueille des chiens aussi, il faut savoir qu'il y a aussi des contraintes réglementaires qui sont plus contraignantes. Et comme, entre autres, d'être éloigné à 100 mètres des habitations, pour préserver, pour les éventuelles pollutions et nuisances sonores, mais aussi pour protéger la sécurité et la santé des riverains.
Vous êtes bénévole dans l'association L'Arche des Chats 44. Pouvez-vous expliquer ce que c'est qu'être bénévole et ce que cela implique ?
Alors, la définition générale d'être bénévole, c'est de faire un don de soi, d'apporter une aide volontaire et librement choisie, que l'on fait à titre gracieux. Et en général, c'est souvent dans un organisme à but non lucratif. Pour cette activité, donc, il n'y a pas de contrat de travail, mais c'est quand même une sorte de contrat moral. Je trouve qu'en fin de compte, ça peut se rapprocher un petit peu du contrat de travail. Parce que pour moi, être bénévole, c'est un engagement qui est librement choisi et consenti, ça c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on peut venir quand on veut, mais plutôt selon les besoins, ni de faire ce que l'on veut. Hein. On travaille avec des animaux, donc il faut savoir respecter leurs besoins physiologiques, dits psychiques. Eux, ils ont besoin de nous voir, ils ont besoin de rituels et d'habitudes. Donc, il y a aussi des règles d'hygiène, des conduites à tenir face à eux. Et donc, pour cela, on suit un protocole, on suit des consignes.
Est-ce compliqué d'être bénévole dans une association comme la vôtre ? Si oui, pourquoi ?
Alors, j'ai envie de dire oui et non. Non, parce que il suffit d'être motivé déjà. Hein, donc, déjà, quand on a la motivation... C'est intéressant aussi quand on est plutôt une personne plutôt patiente, calme, posée, hein, surtout pour travailler avec des chats, des fois ils peuvent être un peu craintifs, donc les gens qui sont un peu vifs, c'est pas forcément adapté. Et puis l'essentiel du travail, ça consiste surtout en fin de compte à l'entretien du lieu du refuge, quoi, leur environnement. C'est de faire aussi les litières, faire le ménage, nettoyer les gamelles, de remettre à manger et à boire quotidiennement. Donc c'est vrai que c'est pas forcément compliqué, mais bon, il faut le faire, il y a un certain ordre, il y a un protocole. vérifier qu'ils sont en forme, bien sûr. Ça. Et puis, à la fin, on a le droit à la petite récompense, effectivement, les petits câlins, jouer avec eux, s'occuper de l'aménagement. Voilà. Ce qui peut être plus compliqué, c'est que les refuges sont souvent éloignés de la population, justement, donc sont souvent véhiculés. Donc, nous, c'est vrai qu'on demande aussi, entre autres, plutôt des gens qui soient majeurs. Donc, d'avoir son véhicule, c'est toujours plus intéressant parce que c'est toujours un peu compliqué de venir par ses propres moyens. Et puis, sinon, ce qui est un peu compliqué par rapport à nous, c'est qu'on a des horaires réguliers. Comme on est une petite association, on n'a pas besoin d'être là sur place toute la journée. Mais par contre, on essaye quand même, de toute façon, de venir tous les jours. Ça, c'est obligatoire, mais au moins d'avoir des horaires plutôt réguliers. Et donc, nous, on y va plutôt le matin. Donc c'est vrai que quelqu'un qui veut être bénévole mais qui travaille toute la semaine, nous on a besoin en semaine par exemple, c'est compliqué d'être bénévole. Et puis c'est souvent à ce moment-là aussi qu'on forme plus facilement les gens. Donc c'est vrai que c'est pas forcément simple de concilier activité professionnelle avec le travail de bénévole et parfois même aussi la vie de famille qui peut prendre du temps. Donc c'est vrai qu'être bénévole, ça demande du temps.
Comment récupérez-vous les animaux ?
Alors, y a une chose qui est très importante, justement, et cette question permet de rétablir sûrement beaucoup d'idées fausses. Les gens ont souvent tendance à nous confondre avec les fourrières. Les associations et les refuges, c'est complètement différent des fourrières. Or, justement, les associations et les refuges ne récupèrent jamais les animaux directement. Les chats perdus, les chats errants, ça doit obligatoirement passer par une fourrière avant. C'est obligatoire, c'est la loi. Et donc, ils doivent passer par là pendant une huitaine de jours pour rechercher les propriétaires. Après, c'est une fois que cette période-là est faite que les animaux peuvent être transmis aux associations pour trouver un foyer. Sinon, la deuxième possibilité de récupérer les animaux, c'est aussi quand les propriétaires les apportent, donc les propriétaires eux-mêmes, puis avec de préférence la fiche ICAD. C'est vrai qu'elle n'est pas toujours présente, mais c'est bien dommage parce qu'il faut savoir que les chats, les chiens, les furets, ce sont des animaux qui doivent obligatoirement être identifiés. Et ce, dès le premier don, c'est-à-dire que dès l'âge de 2 mois, ils doivent être identifiés. On n'a pas le droit de donner son petit chat, son petit chien, sans qu'il soit identifié avant. Et on doit avoir aussi un certificat vétérinaire. Et ça, même si on le donne à son voisin ou à sa famille. Donc voilà, donc le propriétaire, on lui demande entre autres cette fiche ICAD pour pouvoir faire justement le transfert de propriété. Et puis sinon, il y a aussi, mais ça c'est plus rare, ça arrive sûrement plus dans les plus grandes associations, de récupérer des animaux par décision administrative ou judiciaire.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se comportent vos animaux dans le refuge ?
Alors, il n'y a pas vraiment de comportement typique chez le chat, à proprement parler. C'est pas comme les chiens, c'est un peu différent. Il n'y a pas de caractère fixé, il n'y a pas de caractéristiques. Donc, en fin de compte, les animaux, en plus, ils sont un peu comme vous et moi, ils sont tous différents. Donc, il n'y a pas vraiment de comportement typique. Mais il y a quand même deux comportements qui sont récurrents. Le premier qui se produit le plus souvent, c'est de toute façon souvent, en plus ça se reproduit après chez l'adoptant, pratiquement automatiquement, c'est que l'animal a plutôt tendance à se cacher. Parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont... C'est naturel pour un chat d'être craintif, parce que dans son état naturel, d'instinct, il est prédateur, mais il est aussi proie. Donc il a souvent aussi appris à avoir peur de l'homme. Donc l'instinct de se cacher quand il arrive, en plus c'est un animal qui est très territorial, qui est très sensible à son environnement, donc le fait d'être déplacé pour lui c'est la catastrophe. C'est pour ça aussi que parfois, même quand on part en vacances, des fois on pense à la pension, ce qui peut être très bien d'ailleurs pour les chats qui sont très à l'aise, ça, il n'y a pas de souci, hein, ça évite aussi que le chat soit tout seul. Mais par contre, pour les chats qui sont très attachés à leur territoire, comme ça arrive assez souvent, vaut mieux le laisser chez soi et plutôt embaucher une pet-sitter qui vient à la maison au domicile du chat pour venir le voir et s'en occuper. Qu'est-ce que... Oui, en deuxième comportement, autrement justement aussi pour les chats qui, eux, par contre, sont plus à l'aise, bah, c'est tout de suite l'exploration de l'environnement. C'est de voir où est-ce que je suis, qu'est-ce qu'il y a à visiter, qu'est-ce qu'il y a à voir, quelles bêtises je peux faire. Voilà, ça, c'est les deux comportements principaux.
Lorsque les animaux ne sont pas adoptés, comment faites-vous ?
Quand les animaux ne sont pas adoptés, bah, le truc tout bête, c'est que bah, déjà, on n'en prend plus d'autres. Donc, c'est un peu bête, mais il n'y a pas le choix. Il y a un nombre de places, c'est limité. Donc, à partir du moment qu'ils sont là, bah, ils sont là, voilà. Et puis, donc, bah, on n'en prend pas d'autres. Alors, moi aussi, je m'occupe par exemple de ceux qui ont moins de chances d'adoption, c'est-à-dire ceux qui sont plus fragiles, ceux qui sont plus considérés inadoptables, des chats qui peuvent avoir des maladies comme la leucose. J'en profite pour bien vous dire, vaccinez bien vos chats, surtout quand ils vont à l'extérieur, mais même en intérieur. Hein, il y a des maladies qui sont graves et qui peuvent être évitées. Et donc, voilà, le chat, après, s'il a une maladie, de toute façon, il n'a pratiquement aucune chance d'être adopté. Je suis juste un peu perdue, mais j'arrive. Il y a aussi des fois des chats qui finissent aussi par développer certains comportements qui peuvent être gênants. Quand ils sont chez eux. Donc c'est pareil, quand il y a des chats qui, par exemple, peuvent devenir agressifs, bon, c'est pareil, en général, c'est plutôt moi qui vais m'en occuper. Et puis les chats craintifs aussi, hein, donc, les chats qui sont craintifs, et il y a aussi ceux qui cumulent l'ensemble, hein, qui peuvent être craintifs, qui ont une maladie, et voilà. Donc c'est vrai que ceux-là, ils sont plus en famille d'accueil que de rester au refuge, où voilà, ils voient du monde différent tous les jours, c'est pas toujours évident. Pour ce qui est des chats plus sauvages aussi, c'est des chats qui restent un peu des oubliés, sachant que de toute façon, bah, les associations, le premier but, c'est quand même de retrouver un foyer aux chats. Donc, on ne peut pas toujours se charger des chats qui sont les plus sauvages, qui ne se laissent pas caresser. Par contre, ce qui reste comme solution, c'est malgré tout soit voir avec la mairie, avec la fourrière ou les associations quand elles ont eu le financement. C'est de pouvoir surtout les faire stériliser. C'est très important parce que là aussi, ça évite les maladies, mais surtout la prolifération. Il faut bien se garder à l'esprit qu'un seul chat à l'origine qui va voir une petite chatte qui voit un petit mal de temps en temps, c'est très vite 20 700 chatons en 4 ans. C'est des millions en quelques années. Donc, pour un seul chat à l'origine. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très important de stériliser, parce que la prolifération reste un gros problème, et elle le restera d'ailleurs toujours, tant que la stérilisation ne sera pas obligatoire. Pour ces chats qui sont plus sauvages, la stérilisation et l'identification, puisque justement, ces chats-là, on peut aussi les identifier en tant que chats libres. Et donc, après, ils peuvent être mis soit sur le site où ils étaient, parce que souvent, il y a des gens qui les nourrissent. Et puis, si jamais l'endroit est trop dangereux, ben, il peut y avoir des endroits dédiés aux chats qui sont plus sauvages, comme à la fourrière, par exemple. Ils ont un terrain qui est dédié à ça. Alors, par contre, il faut malgré tout bien penser à une chose, c'est qu'il ne faut pas non plus surpeupler ces lieux. C'est comme aussi dans les chatteries. C'est que voilà, plus y a d'animaux et plus ça devient invivable pour le chat, parce qu'il faut bien aussi garder à l'esprit que le chat n'est pas un animal sociable. Ce n'est pas comme un chien. Le chien a besoin de vivre en meute, pas le chat, pas du tout. Le fait d'être en groupe pour un chat qui, justement, c'est pas sa nature, le fait d'être en surpopulation, ça va forcément, même s'il est stérilisé, apporter des bagarres, des infections, les chats qu'on appelle plus dominants, qui vont martyriser, qui vont chasser ceux qui sont un peu plus faibles.
Très bien. Et que faites-vous des animaux malades ou blessés ?
Alors, bah, blessés, heureusement, chez nous, il n'y en a pas trop. On fait en sorte, justement, qu'ils ne le soient pas. Mais sinon, bah, pour les animaux malades, forcément, on va chez le vétérinaire. Hein, ça, on ne se pose pas de questions. Mais là, j'en reviens peut-être justement à ce que je disais tout à l'heure. C'est peut-être parce qu'il y a un peu aussi une confusion entre refuge, association et les fourrières. Hein. C'est vrai que c'est les fourrières qui se retrouvent avec le gros des animaux qui sont blessés et malades.
Avez-vous déjà adopté un animal du refuge ? Pourquoi ?
Oh bah oui, forcément. J'ai par exemple mon Booba, mon nounours, ma Nacha, ma Ricotta. Pourquoi ? Comment travailler dans le domaine des animaux quand on les aime ? Comment ne pas craquer ? Et puis craquer, ce n'est pas non plus forcément sur un physique, sur une beauté ou parce qu'il est bébé, mais voilà, parce que... Voilà, on peut tomber amoureux des chats. Et puis d'ailleurs, ça peut être un problème parfois dans les familles d'accueil ou les bénévoles, hein, parce qu'eux aussi, ils attrapent ce doux virus.
Comment faire si on veut adopter un animal dans votre refuge ? Êtes-vous vigilant sur les adoptants ?
Oui, on est vigilant, forcément. Alors nous, pour adopter, c'est vrai que, en fin de compte, on demande aux personnes de bien vouloir remplir deux fiches. On commence par là, finalement. Il y a une fiche de préadoption. En fin de compte, on demande des renseignements sur les personnes, sur la composition du foyer, sur l'environnement. Voilà, donc ça, c'est justement pour pouvoir déterminer si, justement, on a les animaux qui pourront correspondre au foyer. Et puis, on a une deuxième fiche, qui est une fiche de connaissances sur les chats. Et ça, c'est juste pour pouvoir justement apporter des informations complémentaires ou souvent corriger aussi des idées fausses, parce qu'il y en a aussi pas mal. Comme par exemple, les gens demandent souvent des femelles, qui souvent n'ont pas de sens. Il n'y a pas vraiment de caractéristiques qui sont propres aux femelles par rapport aux mâles, à partir du moment que l'animal est stérilisé en temps et en âge. Donc voilà, donc ça permet de rétablir pas mal d'idées fausses. Ensuite, donc ces fiches, on demande à ce qu'on nous soit renvoyé bien complété à notre adresse mail larchedeschats44@gmail.com. Ensuite, donc déjà ces fiches, faut savoir qu'elles sont librement à télécharger sur le groupe Facebook L'Arche des Chats 44 pour ceux qui aiment les boules de poils, mais aussi on peut nous les demander par mail. Voilà, et puis donc à remplir, à nous renvoyer. Nous on prend contact ensuite avec la famille, donc pour parler des animaux qui sont possibles. Donc justement, on va proposer que les animaux qui sont possibles. Donc c'est pour ça que des fois, visiter le refuge, ça n'a pas forcément d'intérêt si déjà l'animal n'est pas là, si par exemple il est en famille d'accueil. Et puis non plus de voir les animaux qui justement ne seront pas adaptés. Donc c'est pour ça que de se préparer un petit peu avant, c'est pas mal. Il y a aussi un intérêt d'ailleurs à se préparer un petit peu avant, et nous aussi on communique pas mal par SMS, par mail, parce qu'il faut savoir aussi que dans la communication orale, en général on va peut-être retenir 10 à 30% des informations. Or là, souvent, quand on adopte, c'est un moment où on reçoit plein d'informations et forcément, on en zappe pas mal. Donc le fait au moins de travailler par mail avant, ça permet d'avoir des documents qu'on peut avoir le temps de reprendre tranquillement. Ça permet aussi de réfléchir et de digérer justement l'ensemble de toutes ces informations, et ainsi de mieux se poser les questions de nos possibilités de justement pouvoir accueillir un animal.
Savez-vous combien d'animaux sont abandonnés chaque année et quelle est la part de chats dans... Et quelle est la part de chats dans ces abandons ?
Alors j'avoue que c'est vrai que je ne sais pas les chiffres exacts. Il y a environ 15 millions de chats dans les foyers. En 2019, il y avait à peu près 100 000 abandons chaque année, dont 60 000 en période estivale. La part des plus destinée aux chats, j'avoue ne pas le savoir. Mais moi, la chose que je dirais en tout cas, c'est que le chat n'est peut-être pas forcément concerné par la période estivale. Le chat est vraiment abandonné, lui, c'est toute l'année. C'est pas à cause des vacances, c'est vraiment toute l'année. Il y a déjà, c'est en relation déjà pas mal, bah justement, comme on disait tout à l'heure, par rapport aux périodes des naissances. Donc, c'est 9 mois de l'année. Et le fait, donc, justement, que les animaux ne soient pas stérilisés, bah, les gens ne savent plus quoi faire des chatons. Ou alors, bah, chat libre, c'est pareil, hein, on retrouve les chatons, donc qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, ça fait partie des abandons. Après, il y a aussi l'animal-objet, l'achat compulsif. Donc ça, ça concerne aussi ces 9 mois, parce que souvent, les gens, justement, vont préférer adopter forcément le petit chaton qui est tout petit plutôt qu'un adulte, ce qui est bien dommage. Et puis, même parfois, ils sont aussi fixés sur femelle, comme je disais tout à l'heure, donc, alors qu'il n'y a pas de raison. Parce qu'on a souvent des idées fausses et des a priori qui sont erronés. Mais en tout cas, leur abandon intervient bah, soit quelques mois après, quand par exemple l'âge arrive, quand le chat arrive à l'âge de l'adolescence, quand il faut penser à la stérilisation, ou un peu plus tard quand il devient adulte, parce que aussi parfois le chat, parce qu'on ne respecte pas forcément tous ses besoins naturels, instinctifs, va développer certains comportements qui vont gêner l'humain. Hein. Pour le chat, ça va être des comportements normaux, mais pour l'humain, ça va être gênant. Donc voilà, on l'abandonne. Donc voilà. Et puis il y a une chose aussi peut-être à penser, c'est que c'est vrai que quand on a des soucis de comportement justement avec le chat qui donne souvent naissance à ces abandons, c'est qu'il faut bien penser par exemple à faire vérifier par un vétérinaire qu'il est en bonne santé, parce que des fois ça peut être un problème de santé qui induit ces problèmes de comportement. Et puis ensuite, bah, c'est souvent un problème de communication entre l'animal et l'humain, et qu'en fin de compte, on n'a pas le décodeur, on ne connaît pas assez bien l'animal, et donc dans ces cas-là, vraiment, je vous conseille, c'est de contacter un comportementaliste, parce qu'il va vous donner l'analyse, les clés pour comprendre votre animal, ce qui pourra empêcher l'abandon de celui-ci. Sinon, dans les abandons aussi, à signaler qu'il y a quand même malgré tout aussi beaucoup d'abandons qui sont dus aux personnes âgées. C'est malheureux à dire, mais souvent, elles ont plusieurs animaux. Les héritiers peuvent rarement les prendre en charge parce qu'ils ont eux-mêmes des animaux ou n'ont jamais eu d'intérêt pour les animaux. Donc, dans ces cas-là, on s'en débarrasse parce que, en général, les propriétaires n'ont jamais prévu l'avenir de leurs animaux. Donc, voilà. C'est tout pour l'instant. Sinon, vous vouliez peut-être savoir à partir de quel âge on pouvait être bénévole.
Oui.
Donc, en fin de compte, chez nous, bah, il faut être majeur. Hein. Mais bon, après, chaque association doit gérer peut-être à sa façon. Mais comme je vous disais, il y a quand même, comme je vous disais tout à l'heure, il y a quand même... le souci de pouvoir venir au refuge par ses propres moyens. Donc c'est vrai qu'être majeur, ça peut aider. Puis des fois, d'ailleurs, dans le travail de bénévole, il peut y avoir le travail de trapage des animaux, justement, pour pouvoir les stériliser, les identifier, donc quand ils sont plus craintifs. Donc il faut essayer de les attraper avec une cage-piège. Et là, c'est pareil, si vous êtes à pied, vous n'allez pas vous balader avec la cage et l'animal jusqu'à chez le vétérinaire. Enfin, à pied, c'est un peu compliqué. Donc voilà, être majeur, c'est mieux. Puis être assuré aussi.
Si les auditeurs qui nous écoutent veulent aider dans votre association, comment peuvent-ils faire ?
Alors, bah, c'est un peu le même principe que pour les adoptions. Il y a une fiche bénévole à compléter qu'on peut aller télécharger sur la page, le groupe Facebook L'Arche des Chats, pour ceux qui aiment les boules de poils. Et puis, donc, où on peut nous la demander par mail et nous la renvoyer remplie à notre adresse mail.
Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation.
Merci beaucoup. C'était avec
plaisir.
Au revoir.
Merci beaucoup, les filles.
Merci beaucoup, les filles. Nous avons appris plein de nouvelles choses. Merci encore, Sylvie. Et on rappelle que si vous voulez devenir bénévole à l'Arche des Chats, vous pouvez... Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Merci beaucoup.
La vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. seul dans ma chambre, un jour normal. J'apprends dans les journaux que je suis dans l'axe du mal. Je lis entre les lignes et je comprends qu'on veut me kill. Donc je ferme la serrure pour être un peu plus tranquille. Dehors c'est la guerre et je crois qu'elle vient vers moi. Malgré les manifs, qui vivra la verra. Je mets des sacs de sable dans mon salon. Des salauds veulent me shooter comme au foot. Le stopper veut shooter le ballon. À la télé j'entends que je suis le pire des mecs. Non violent, violent, la propagande est un pec. Je flippe des troupes spéciales des pays 52. Regrette ce que j'ai fait, je crois que j'aurais pu faire mieux. Mais l'erreur est humaine, j'avoue, j'ai fait des erreurs. Prendre position, c'est prendre une pluie de terreur. Au nom du Père et du Saint-Esprit, l'imam et du rabbin, plus jamais ceci.
Parole de Conti, la dernière, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à nos invités, Nicolas Bernard du salon de tatouage Roi Lézard, Laurent Cardoncuve de la chocolaterie L'Atelier et Sylvie de l'association L'Arche des Chats 44. Merci également au collège Anita Conti pour l'accueil. André à la technique, il a été merveilleux.
Merci.
Il est toujours merveilleux. À Adeline et Lucie en studio. Merci à Morgane, à Camille, à Rémi et à Caroline. Eux aussi sont tout le temps formidables et merveilleux. Surtout un grand merci, un grand bravo à Anouk, Tess, Soumia, Clé, Shannon, Agathe, Margot, Elena et Anna. Et puis bon, on en profite aussi pour remercier tous les autres, c'est-à-dire tous ceux qui sont passés tout au long de l'année à Anita Conti. Là j'ai le groupe derrière moi des 6e, va falloir m'aider parce que je vais peut-être en oublier. Il y avait Emma, il y avait Océane, il y avait Thaïs, il y avait Sona, il y avait Océane, je l'ai déjà dit non, il y avait qui d'autre? Il y avait Rihanna, Iliana, je me disais j'ai pas eu de Rihanna. Et Samidja, et puis y a aussi quand même Paola qui nous a suivis de loin tout au long de l'année. Hein. On remercie aussi chez les troisièmes, il y avait Camille, elle est où Camille? Oh Camille, viens dire un petit au revoir parce que c'était ta dernière de tout le temps toi, hein. Tu les as toutes faites depuis 4 ans. Oh ça va me rendre triste, l'année prochaine tu seras plus là. Ah bah non, Camille, non c'est toi qui feras le au revoir final. Allez, je te garde pour le au revoir final. Merci au cinquième. Alors de mémoire, il y avait Sophia, il y avait Alban, il y avait Margot, il y avait Arthur, il y avait Marius, il y avait, j'en oublie sans doute, mais ils m'en voudront pas. Emma, il y avait toujours des Emma en fait, hein. Et puis chez troisième on a dit, il y avait bien Camille, il y avait Louise, il y avait Anouk, merci à tous les invités qui ont accepté notre invitation tout au long de l'année parce qu'ils ont été très nombreux, on a appris plein de choses, c'était très très cool. Il est temps de se quitter, normalement on revient l'année prochaine. J'ai dit les filles, j'ai dit grand bravo les quatrièmes et non, il n'y a pas eu de soucis. Et puis du coup le au revoir final, Camille, ça fait 4 ans que tu fais Parole de Conti, c'est ta dernière, c'est pas trop triste?
Non, ça va.
Ouais, on a 8 micros, mais on en partage un. Camille, c'est lourde tâche de dire au revoir à toi.
Bah, merci beaucoup et au revoir, hein, c'était un plaisir. Non, pas du tout.